Bonjour chers auditeurs, ou bonsoir pour ceux qui nous écoutent en différé le jeudi à 23h. Je suis très heureux de vous retrouver, très heureux d'avoir réussi à convaincre deux personnages très occupés qui contribuent à la même cause. Il faut dire qu'il n'y en a qu'une, mais qui d'abord n'habitent pas à Paris ni l'un ni l'autre, et ensuite ne s'étaient jamais rencontrés. Et au pied levé, de certaine façon, on a fait un plateau idéal. Alors, la question aujourd'hui est simple. Est-ce que on transmet l'histoire de France ou pas? Moi, j'ai cru pendant très longtemps, vraiment, à regarder les livres scolaires, les livres d'histoire des écoles, j'ai cru que les enfants auraient plus que de la bouillie dans la tête, et cela depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, sans connaître des continuités. C'est ce qui est important, justement, pour aujourd'hui, les continuités de notre histoire. Et puis finalement, il n'en est rien. Je pense à deux spectacles montés par des jeunes, avec des jeunes de tous les côtés, qui comprennent parfaitement le fil de l'histoire de France. Je ne sais pas par où c'est passé cette résurgence, mais en tous les cas, c'est clair et net. C'est clair et net dans un spectacle dont vous avez certainement déjà entendu parler. Il y en a un qui est un peu plus connu que l'autre pour l'instant. Il y a une petite concurrence. La Dame de Pierre de Corentin Stemler, qui est ici près de moi. Cher Corentin, merci
Merci de me recevoir.
d'être venu si facilement pour Radio Courtoisie. Votre spectacle La Dame de Pierre a un grand succès, non seulement à Paris, mais aussi en province. D'ailleurs, je crois que vous avez tenu à ce que la province soit associée. Vous n'êtes pas très centralisateur, pas très jacobin, j'ai l'impression.
J'habite pas à Paris et je pense que Notre-Dame de Paris, c'est une cathédrale qui parle à tous les Français et pas qu'aux
Voilà,
Parisiens.
très bien. Et vous êtes Vendéen, on reviendra sur la Vendée. Et à l'autre bout, non pas à l'autre bout de la France, mais j'ai découvert il y a quelques années un jeune homme qui est aussi dans ce studio, Guillaume Senet. Bonjour Guillaume,
Bonjour Paul-Marie, merci beaucoup.
qui brille de mille feux, qui a commencé par faire une université d'été dans un beau château près de Moulins. Alors, je ne dis pas nécessairement où, mais enfin vous êtes connu comme le loup blanc.
La gauche s'en est chargée, ne vous inquiétez pas, mais bon, on le taira quand
Vous
même.
êtes débusqué dans le Bourbonnais. Réhabilitons cette région qui n'a pas fait tellement parler d'elle en tant que région propre et qui pourtant a sa culture propre. Et je l'ai découvert, cher Guillaume Senet. Je suis d'autant plus heureux que vous veniez ici en chair et en os qu'à plusieurs reprises ces 2 ou 3 dernières années, nous avons parlé par téléphone parce que vous habitez à Moulins, donc c'est pas non plus tout près de Paris. Et vous avez fini par percer et l'université Sophiapolis, à laquelle j'ai participé, je crois, 2 fois, commence à avoir son rythme, à avoir son ton. C'est à la fin du mois de juillet de chaque année. On verra sur le site, ou nos auditeurs verront sur le site Sophiapolis qui existe, de quoi ils retournent, ils peuvent s'y inscrire. Mais c'est pour une autre raison que je vous ai invité aujourd'hui, c'est que chemin faisant, vous avez étendu comment peut-on dire, votre magistère en lançant à Moulins, alors dans la ville même de Moulins, l'été dernier, un spectacle assez étonnant, assez. D'ailleurs, l'un comme l'autre, vous m'étonnez, parce que je ne vois pas comment on peut monter tant de choses à partir de pas grand-chose, c'est-à-dire des équipes, des petites équipes autour de vous. Vous avez lancé donc Guillaume Senet à Moulins, un spectacle qui dure plusieurs jours, qui s'appelle Murmure de la Cité, et qui a soulevé des polémiques, alors beaucoup plus que vous, Corentin, bien qu'il y en ait eu quand même, un peu. Terrible dans ce Bourbonnais qui est resté au fond, comme beaucoup plus qu'on ne le croit ailleurs en France, des polémiques nées de la CGT, des communistes qui ont trouvé scandaleux, qui ont même souhaité qu'on vous interdise, et qui continuent à mener le combat, donc rien n'est gagné, sous prétexte que l'histoire, voilà notre grand sujet, que leurs professeurs ne sont pas arrivés à couper en rondelles. L'histoire de France existe et elle est restée présente dans l'esprit des jeunes Français. C'est elle que vous illustrez en insistant sur la culture du Bourbonnais. Donc j'ai eu un aperçu un jour, puisque lors d'une vos journées Sophiapolis, une journée de clôture, on a vu paraître, je ne sais pas, 7 ou 8 paysans arriver avec des sabots, à absolument stupéfiants qui ont dansé avec des sabots. Alors ça, je ne sais pas du tout comment on peut arriver à le faire, mais c'était éblouissant.
Vous reviendrez pour apprendre, je pense que...
Ah, pour apprendre, non, certainement pas. Vous avez vu mon âge. Bon, sabots ou pieds nus, je ne danse plus, moi, c'est fini.
Je l'ai fait, danser avec des sabots au Puy du Fou.
Alors, Corentin Slemeler, vous le dites dans la magnifique poche, enfin, le petit texte que j'ai devant moi, la petite brochure, vous venez du Puy du Fou et plusieurs de vos comédiens sont passés par, est-ce qu'on peut dire la maison mère, le Puy du Fou ?
Puy du Fou, c'est une inspiration, surtout pour moi, c'est là où j'ai découvert le monde du spectacle. C'est là où j'ai appris à aimer la scène, j'ai appris tellement de choses là-bas. Et puis ensuite, j'ai découvert plus le monde de la comédie musicale, des spectacles en salle, et c'est ça qui m'a poussé à monter La Dame de Pierre. Donc moi, je garde un attachement très fort au Puy du Fou pour tout ce que j'y ai découvert et appris.
Gloire soit rendue à Philippe de Villiers qui a créé un contre-genre. Alors c'est l'anti-Disney et machin. C'est vraiment l'histoire du lieu et à travers le lieu l'histoire de France mise en scène à travers différents tableaux, et je dois dire que je suis encore une fois très, très étonné que ça puisse être fait, qu'un attachement à l'histoire soit tel que des jeunes se réunissent et créent une œuvre, une véritable œuvre. La Dame de Pierre, je crois que c'est pas la première de vos mises en scène, Corentin.
Non, c'est pas mon premier spectacle, c'est de cette ampleur-là, c'est la première fois. Mais j'ai commencé par écrire des pièces de théâtre au début de mes études, puis monter des premiers spectacles, et puis ça a pris de l'ampleur au fur et à mesure du temps.
Bon, alors, je crois avoir compris que c'est quelques jours après l'incendie de Notre-Dame, en avril 19, que vous avez eu l'idée de mettre en scène l'histoire de Notre-Dame. Et on voit défiler en effet toute l'histoire de France, depuis même le sacre de Clovis, bien antérieur. La première scène, c'est ça, c'est le sacre
de Clovis.
Tout à fait,
c'est un peu les fondations en fait. Pour expliquer que Notre-Dame de Paris, elle ne vient pas de nulle part.
Et
elle
comment
a une raison pour laquelle cette cathédrale a été construite au cœur de Paris. Pour autant, la Dame de Pierre, ce n'est pas un cours d'histoire sur Notre-Dame. C'est-à-dire qu'on ne raconte pas toute l'histoire de la cathédrale. Il y a forcément des choix qui sont faits sur des périodes, sur des personnages. Ce n'est pas le but d'un spectacle d'être une encyclopédie ou un documentaire. Mais on vient puiser dans l'histoire un certain nombre de situations, de personnages auxquels les gens peuvent se rattacher, des figures célèbres comme Saint-Louis, comme Victor Hugo, comme le général de Gaulle. Et puis, on présente ces événements, quelques événements au fur et à mesure des siècles, en essayant de trouver un fil rouge. Moi, mon fil rouge sur la Dame de Pierre, dont l'idée est née après l'incendie, comme vous l'avez dit, c'était de comprendre comment cette cathédrale est devenue ce symbole d'unité, de rassemblement pour tout le monde.
Ah oui.
D'où vient en fait cet attachement que tout le monde avait pour Notre-Dame de Paris ? Parce que ce qui m'a frappé en fait avec l'incendie, c'est que pour ma part, je connaissais bien cette cathédrale, j'y étais très attaché.
Ah oui.
Mais je pensais que...
Pourquoi ? Pour sa dimension symbolique ou parce que le lieu est
agréable ? Je saurais même pas vous dire. J'étais fasciné par Notre-Dame et oui. j'y allais énormément. Et je voyais bien qu'il y avait beaucoup de touristes qui venaient. C'était un monument encore extrêmement fréquenté, un des monuments les plus fréquentés de France. Mais quand même, je me disais, bon, peut-être qu'au fur et à mesure du temps, on va oublier ces cathédrales, elles ne vont plus intéresser personne. Ce qui m'avait frappé notamment, c'était qu'à l'époque, ils cherchaient à lever des fonds pour restaurer Notre-Dame. Donc, il y avait partie qui était financée par l'État, il y avait une partie qui devait être financée par des fonds privés. Et ils ont mis des années à trouver 7-8 millions d'euros. Et beaucoup de gens alertaient sur l'état de la cathédrale. Et en fait, quand il y a l'incendie, quand on voit cette émotion extraordinaire, tout le monde, tous les Français, quelles que soient leurs opinions politiques, quelles que soient leurs opinions confessionnelles, tout le monde était là face à cette cathédrale en train de pleurer, sidéré par ce qui se passait. Vous voyez ensuite, dans les jours qui suivent, 1 milliard d'euros de dons levés pour la restauration de cette cathédrale, avec 300 000 donateurs. Vous avez les grandes fortunes qui ont fait des dons extraordinaires, mais vous avez 300 000 personnes qui ont fait des dons pour restaurer Notre-Dame. Vous avez des enfants qui ont envoyé leur argent de poche. Et quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose au fond de nous.
Mais je m'en suis aperçu le soir même, alors je ne pense pas que vous étiez à Paris, j'y étais.
Non, j'étais devant un écran, j'étais sidéré.
Il y avait des parterres, par petits groupes d'ailleurs, de jeunes qui, à partir de 20h, parce qu'on l'a appris vers un peu avant 19h, le début de l'incendie, étaient assis ou à genoux même et en prière. C'est extraordinaire. Le soir même, il s'est passé quelque chose. Au moment même, on l'a appris.
Mais on le sentait, même à distance, on sentait qu'il y a quelque chose qui se passait. Et vous avez dans cette soirée des anecdotes incroyables. Moi, ce qui me fascine le plus, c'est l'opération des pompiers. Je le raconte dans La Dame de Pierre, c'est au moment où la flèche s'écroule.
Ah, c'est un moment extraordinaire, quand des pompiers se dévouent.
Bien sûr, mais au péril de leur vie. Parce que quand la flèche s'écroule, en fait, ils ont tous quitté l'édifice parce que Notre-Dame était trop fragilisée à ce moment-là. Ils commençaient à préparer le plan d'effondrement de la cathédrale. Mais bien sûr, ils considéraient que la cathédrale était perdue. Et en fait, vous avez une vingtaine de volontaires qui sont remontés sur les tours pour éteindre le feu qui avait commencé à prendre dans le beffroi nord et pour faire une barrière de feu entre la charpente et les tours. Ils sont montés au péril de leur vie, ils ont réussi à maîtriser le feu, à éviter sa propagation, et ils ont sauvé Notre-Dame. Ils n'auraient pas fait ça, vous auriez eu aujourd'hui un magnifique tas de pierres sur l'île de la Cité. Mais pas que les tours, toute la cathédrale se serait effondrée. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire aujourd'hui, bon, bah, Notre-Dame de Paris, bon d'accord, elle a brûlé, mais maintenant elle a été restaurée, tout va bien. Elle aurait pu s'écrouler si vous n'aviez pas eu ces pompiers qui étaient montés sur les tours. Et les pompiers racontent cette anecdote que je trouve magnifique. Vous avez des pompiers qui sont justement sur les tours à ce moment-là, et qui entendent en fait...
la clameur.
Qui entendent des personnes qui prient, comme ça, depuis les quais.
Ah oui.
C'est extraordinaire.
Mais on l'entendait d'ailleurs, ça faisait un murmure dans la cité cette fois.
Et vous aviez comme ça toute la France qui avait les yeux tournés vers Notre-Dame et tout. C'est un événement, je trouve, qui à la fois est terrible, et qui en même temps nous montre qu'il y a quelque chose au fond de nous. On peut dire beaucoup de choses sur la société dans laquelle on vit, sur parfois la perte de sens, le déracinement, mais en fait non, vous avez des choses qui ne bougent pas, des choses qui restent. Et j'aime bien cette phrase de Philippe de Villiers qui dit le je sais pas si elle est Philippe de Villiers, mais il la répète souvent, le déracinement déracine tout, sauf le besoin d'enracinement. Et c'est un peu ce que nous montre cet événement avec Notre-Dame de Paris, qu'on a besoin. On a besoin de ces cathédrales, de ces monuments. On a besoin de rester connecté à nos racines, à notre histoire, à notre culture.
L'émotion au moment même était formidable. Formidable. Même en traversant la place Saint-Michel pour aller vers Notre-Dame, c'était pas si facile. Il y avait déjà beaucoup de monde à 20h. On sentait une électricité dans l'air, une émotion comme je pense ne l'avoir jamais sentie. Et j'en apprends encore de nouvelles. C'était encore plus dramatique que je ne pensais. Je ne savais pas qu'on était si près de... Parce que la télévision ne le disait pas. Moi, je n'étais pas à la télévision.
Et non, parce que sur le moment, les médias n'avaient pas ces informations. Mais en fait, il faut lire les témoignages des pompiers. Vous avez eu plein de documentaires, de livres qui ont été écrits sur l'incendie. Et c'est là qu'on apprend un petit peu le détail de ce qui s'est passé. C'est vraiment fascinant comme histoire.
Alors, double renaissance, les jeunes qui... ressaisissent de l'histoire, et puis les Français qui se ressaisissent de leurs symboles les plus marquants, et qui en plus est un symbole chrétien. Alors tout ça parle énormément, y compris ces fameux pompiers, parce qu'on dit toujours, bon, le Français, si la France entrait en guerre, il n'y en aurait pas trois qui se mobiliseraient. Ben, la preuve est faite que non, parce qu'il y avait quand même, je pense à un moment ou à un autre, des centaines de pompiers, mais il s'en est trouvé au moins une vingtaine, dites-vous, pour dire « je risque ma vie ».
Oui, je dis pas que les autres ne voulaient pas la risquer, mais c'est que l'opération nécessitait peut-être une quinzaine ou une vingtaine de pompiers. Généralement, les pompiers qui ont la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui a cette devise « sauver ou périr », elle s'applique à des vies humaines. Là, il n'y avait pas de vie humaine à sauver, mais il y avait, je pense, dans cette cathédrale, une âme qui valait la peine de se battre pour elle. En tout cas, c'est le choix qu'ont fait les pompiers à ce moment-là, et on ne les remerciera jamais assez de ce courage, quoi. Ils ont vraiment risqué leur vie pour sauver Notre-Dame. C'est extraordinaire.
J'ai eu la même émotion, pas à ce point d'ailleurs, lorsque j'ai vu que l'opération Manif pour tous réussissait. Au début, avec Frigide Barjot, j'étais un peu à l'origine, enfin un petit noyau de ces manifestations, pardon, de faire ce rassemblement. Mais on pensait vraiment qu'il n'y aurait pas grand monde. On avait évidemment toute la presse, etc. Mais ce qu'on négligeait, c'est que derrière le tohu-bohu de la presse, des médias, etc., il y a tout un peuple qui reste attaché à lui-même, finalement. Et puis ces manifestations ont eu un succès que nous n'attendions pas, parce qu'on a dépassé le million. Bref, mais c'est ce que révèle cette affaire aussi, vous avez tout à fait raison, de mettre l'accent sur l'héroïsme de ces pompiers dont on n'a pas toujours célébré la gloire, parce que j'apprends que... Alors c'est le général Gallet, qui est maintenant devenu général, qui dirigeait, qui était l'adjoint, je crois, le premier adjoint du...
Vous aviez deux généraux, le général Gallet et le général Gontier.
Oui.
Je ne sais plus lequel dirigeait les opérations, mais les deux étaient sur place. Et effectivement, il raconte ça très bien dans des témoignages, un petit peu ce qui s'est passé ce soir-là. Je crois qu'ils s'étaient répartis les rôles. Il y en a un qui s'occupait des médias et l'autre qui s'occupait vraiment des opérations. En fait, ils avaient fait un PC miroir. Il y a un centre de commandement où les décisions n'étaient pas vraiment prises, oui. Mais parce que c'est là où les médias, les politiques venaient, et ils en avaient un autre dans lequel ils bossaient, vraiment. Il faut imaginer la pression qu'ils avaient.
Au pied levé, ils ont réussi à se répartir les rôles comme ça.
Je pense qu'ils ont une discipline, un entraînement extraordinaire qui leur permet de gérer toute situation. Et là, il faut imaginer les médias du monde entier rivés sur cette cathédrale. Tous les politiques, tout ce qu'il y a de politique à Paris qui débarque sur place, le président de la République, la maire de Paris, le ministère de l'Intérieur, etc. Tout le monde. Et vous devez à ce moment-là prendre les bonnes décisions. Et ils ont pris les bonnes décisions. C'est des hommes admirables. Et d'ailleurs, là, je vais peut-être ouvrir encore un peu plus la question, mais on dit aujourd'hui que nos services publics, que plus rien ne va, que tout se démantèle, etc. Bah, on voit que quand les bonnes personnes sont aux bonnes places, en fait, on est encore capable d'avoir des services publics extrêmement efficaces, quoi. C'est la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, je pense, est un des plus beaux exemples de ce qu'est un service public qui est organisé, responsable et qui assume ses responsabilités. Il y a des questions de moyens, évidemment.
Mais nous nageons dans le bonheur.
Ça donne beaucoup. Moi, je trouve que tous ces événements donnent finalement beaucoup d'espoir.
Beaucoup d'espoir, oui, tout à fait, Corentin Stemler, vous avez tout à fait raison. Et pas simplement de l'espérance, mais cette fois de l'espérance qui devient de l'espoir. C'est encore plus encourageant. Je vais vous demander, Guillaume, de me dire votre émotion ce jour-là. Je pense que vous n'étiez pas à Paris, mais je voudrais poursuivre avec vous encore une minute, Corentin. On ne m'enlèvera pas l'idée, chacun a son avis, que cet incendie n'est pas tombé du ciel. La Providence peut-être, mais pas du ciel, c'est impossible d'ailleurs. Que quoi que ce soit brûle spontanément dans cette dimension. Bien, alors il y a une enquête, enfin on a annoncé une enquête le soir même, et on l'a annoncé après avoir déclaré urbi et orbi que la chose était accidentelle. C'est-à-dire que on décrète que c'était un accident et pas du tout un attentat, puis après on dit on va ouvrir une commission d'enquête. Donc ça ne sert à rien la commission d'enquête. Et est-ce qu'elle a conclu quelque chose? Non.
On dirait les médias soviétiques qui annonçaient un suicide de 2 balles.
C'est
à
ça. Ah, bravo, Corentin.
Non, je pense que je n'ai évidemment absolument aucune idée de l'origine de cet incendie, qu'il soit accidentel ou volontaire, et je me prononcerai pas du tout parce qu'on n'a aucun élément pour le savoir. C'est vrai que c'est dommage.
15 jours avant,
dommage.
Une partie de Saint-Eustache avait brûlé déjà.
Non, mais vous avez des églises qui malheureusement brûlent en France tous les mois. Il y a des incendies volontaires, vous en avez d'autres accidentels. En tout cas, en ce qui concerne Notre-Dame de Paris, c'est sûr que je pense qu'il faut éviter d'être affirmatif et que cette manière de dire tout de suite « Ah non, non, c'est pas, c'est évidemment accidentel », tout comme quand vous avez un attentat, de dire « Oui, bon, le mobile terroriste n'est absolument pas prouvé, mais on pense que c'est simplement quelqu'un sous l'emprise de l'alcool ».
D'ailleurs, parce que...
Voilà, en fait, je pense qu'il faut rester extrêmement prudent, c'est-à-dire quand on sait pas, on dit juste qu'on sait pas, et quand on essaye tout de suite de dire « Ah non, c'est pas ça », c'est parce qu'on a très peur qu'en fait ce soit ça. Moi, ce qui m'exaspère finalement là-dedans, c'est que ça nourrit une colère chez les gens. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Beaucoup, quand on fait de la publicité pour notre spectacle, par exemple sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup de commentaires de gens qui disent qu'ils veulent venir voir le spectacle. Vous en avez beaucoup de gens qui, en fait, parlent de l'incendie, de l'origine de l'incendie, de l'enquête, en disant « Ah, mais on nous a pas dit ça. »
Ah, bah, j'ai vu des gens s'en guirlander. Oui,
en fait, vous avez une colère qui est tout à fait légitime parce que les gens ont l'impression qu'on se moque d'eux, finalement. Personne ne prétend avoir fait l'enquête et savoir exactement d'où vient l'incendie. Par contre, il y a un malaise. Parce qu'il n'y a pas d'informations, il y a des affirmations qui n'auraient pas dû être faites.
Mettons des si, en effet, parce que moi non plus, j'ai pas de preuves. J'ai simplement entendu plusieurs personnes, y compris, j'oublie son nom, un ecclésiastique qui a joué un grand rôle d'ailleurs, mais j'ai oublié son nom, pardon, dire que la façon dont le feu a pris très très vite n'est pas compatible avec l'idée du mégot qui traîne, quoi. D'ailleurs, les versions peuvent changer de tout au tout. Mais quoi qu'il en soit, alors, restons dubitatifs, vous avez raison. Chacun a son idée derrière la tête. Quoi qu'il en soit, celui ou celle ou le mégot qui ont mis le feu à Notre-Dame ont été guidés par la Providence. Parce que, bon, certes, il y a eu des drames, il y a eu des émotions, il a fallu dépenser beaucoup d'argent. Mais pour la France, cette espèce d'élan autour de la cathédrale de Paris avait quelque chose de... Enfin, la portée symbolique était telle que ça avait quelque chose de salvateur.
C'est-on dit que Dieu écrit droit avec des lignes courbes.
Voilà.
On n'avait peut-être pas forcément besoin de brûler Notre-Dame pour commencer à la regarder à nouveau, mais voilà, c'est sûr qu'on tire quand même quelque chose de ces événements. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé de l'incendie, mais ma grande joie, ça a été la réouverture de Notre-Dame de Paris.
Oui, en décembre dernier.
Et quand je parle de la réouverture, je ne parle pas forcément des cérémonies qu'il y a eu au moment des réouvertures.
Mais le fait qu'on ait gagné.
C'est ça. C'est ce moment où, à nouveau, 5 ans après, toute la France avait les yeux tournés vers Notre-Dame, qu'elle était au centre de toute l'actualité, et que vous avez depuis un an des millions de personnes qui viennent visiter Notre-Dame, et vous avez toujours des touristes du monde entier, mais vous avez surtout plein de Français qui viennent parfois de l'autre bout de la France parce qu'ils veulent voir à l'intérieur notre ami, veulent rentrer dans cette église. Et ça, c'est magnifique.
Alors, ce qui est magnifique, c'est que ceux qui s'acharnent à détruire la France, il y en a, et l'histoire de France, eh bien, font chou blanc, finalement. Ils n'y arrivent pas. Et c'est un peu ce qui se passe avec Guillaume Sonnet. Je me tourne vers vous maintenant, mon cher Guillaume. il y a eu beaucoup de... à votre corps défendant, d'ailleurs, de publicité autour de Murmure de la Cité. Pareil, tout simplement parce que vos ennemis, nos ennemis, ont rué dans les brancards, ont fait un tel ramdam, si on peut dire, sans jeu de mots, que... Je dis sans jeu de mots parce que ramdam, ça vient de ramadan. Bon, que ils vous ont servi, finalement. Racontez-nous un peu l'accueil à Moulins. Alors, que faites-vous? Vous prenez plusieurs jours, vous, avec l'accord de la mairie, bien sûr. Vous prenez une petite partie de la ville le soir. C'est quoi? C'est une place et quelques rues.
Alors c'est ni une place ni une rue. C'est le Centre national du costume de scène. Donc c'est un musée, un site d'État qui est clôturé et qui nous est mis à disposition pour jouer ce grand spectacle. Donc c'est...
Ah bon, rien ne se passe dans la rue.
Rien ne se passe dans la rue. Non, c'est le.
Il y a eu des. J'ai vu des choses, il se passait des choses dans la rue.
Alors,
quand même.
Il se passait des choses dans la rue, en l'occurrence il s'agissait des manifestations contre Murmure de la Cité. Effectivement ça faisait partie de l'animation du week-end, mais nous n'y étions pour rien.
Alors racontez-nous, comment ça s'est passé? Vous montez un...
Alors tout à fait, donc dans la même démarche que Corentin, l'objectif c'est de faire redécouvrir un pan d'histoire régional et son impact également au niveau national et de l'Occident. Alors, ce qui est marrant, c'est que voilà,
un impact
régional, national et également au niveau de l'Occident
L'Occident.
Vous ferez vos.
C'est parce que c'est l'Occident. Le mot est né en 1905 quand la Russie a été battue par le Japon. On a dit l'Occident est battu. Mais à l'époque, l'Occident c'était la Russie. Mais maintenant, on comprend plus. Enfin bon, bref, bon, l'Europe.
Bien l'Europe,
dire,
voilà.
Moi, je suis très européen, mais pas du tout occidental.
C'est parfait, Paul Marie.
Bon, bref.
Alors, ce qui est marrant de constater, c'est que donc, Corentin lui a été inspiré par un fait absolument incroyable, historique, l'incendie de Notre-Dame qui t'a inspiré pour ce spectacle. Alors nous, c'est parti de façon beaucoup plus, on va dire, simple. C'est-à-dire que vous avez expérimenté, vous depuis plusieurs années, Paul-Marie, nos soirées terroirs.
Oui.
Alors, un terroir avec toutes ses traditions, à la fois en danse, en accoutrement, en musique. Et cela touche la population, touche les personnes au niveau local, et les personnes se sentent profondément bourbonnaises quand elles voient ça. Elles se disent, disons, c'est incroyable, on ne savait pas que nous avions ça chez nous, et donc on veut le découvrir, et pourquoi pas le transmettre à notre tour. Tout est parti de là, c'était très simple, on était quelques dizaines de personnes, vous étiez parmi nous en 2022-2023. Ces soirées terroirs, où on met nos terroirs, nos traditions en avant, ont plu et l'objectif a été de se dire, les gens se sont intéressés, les gens sont interpellés par cela et aimeraient comprendre pourquoi il y a cela, d'où est-ce que cela vient, pourquoi est-ce qu'ils n'en ont jamais entendu parler par l'expérience se rendre compte que c'est absolument bluffant, c'est beau de voir ces personnes qui vont danser, qui vont avoir leur cœur, qui vont battre à l'unisson le temps d'une danse collective, c'est de ces fameuses danses traditionnelles. Et donc Le spectacle vivant nous a semblé également le meilleur moyen de pouvoir faire passer ces brides de terroir au plus grand nombre. Alors au plus grand nombre d'abord par le biais des bénévoles. Nous en avions pour la première saison 350 et l'objectif était...
Comment on réunit 350 Vous en avez encore plus, Corentin, vous avez...
Non, nous, il y a eu un roulement, oui. Mais on n'a jamais eu 350 personnes en simultané et je suis très impressionné par,
alors,
par
vos chiffres. La scène est très grande. En fait, on a une scène qui fait entre 4000 et 6000 mètres carrés. Donc, on n'est pas en salle, on est en plein air. Et donc, le bâtiment...
Ah oui, c'est ça, c'est en bas.
C'est en plein air, oui, mais c'est pas dans la rue.
C'est pas dans la rue.
Donc, effectivement, le bâtiment qui nous sert de fond, de toile de fond, c'est donc le Centre National du Costume de Scène, qui est une caserne militaire qui fait plus de 100 mètres de long. Donc, c'est un bâtiment absolument
déjà
immense.
Déjà, comment on les trouve, les 350 personnes comme ça, qui se mobilisent gratuitement
Tout à l'heure, Corentin et vous, Paul-Marie, vous parliez du miracle de la collecte de fonds,
oui,
pour restaurer Notre-Dame de Paris.
C'est incroyable.
Et bien,
ça
en fait,
vient comme ça.
C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné quelque chose, une âme, un état d'esprit qui vient prendre la population et les gens vont d'une certaine manière cesser de regarder tout ce qui divise, tout ce qui va faire que les gens ne vont pas se dire bonjour, se parler dans la rue, pour pouvoir construire ensemble quelque chose de beau. Et c'est ce qui s'est passé avec Maman de la Cité, c'est-à-dire qu'initialement vous étiez là il y a quelques années, nous étions une dizaine, et en fait nous sommes passés d'une dizaine en un an, nous sommes passés de quelques petites dizaines à des
quelques
centaines. Et donc ça, c'est effectivement, c'est ce côté...
Ça prend,
et il y a un côté, ouais, à la fois satisfaisant pour ces personnes qui sont heureuses de contribuer à quelque chose qui nous dépasse.
Ce qui s'est passé au Puy du Fou.
Mais complètement. Et la même chose
il suffit qu'on soit sollicité pour une cause, pour la cause qui parle, c'est-à-dire la cause nationale avant tout.
Exactement, et cette transmission de l'histoire a fonctionné. C'est vrai qu'on parle de l'histoire de France. Et alors, vous me posiez la question de savoir...
Oui, alors,
que
votre comité de publicité,
après,
là, vous avez un service de publicité.
Exactement.
Extraordinaire. Ah,
L'impressario est très bon. Donc des personnes, toutes ces mêmes personnes
qui
vont
chercher. Il y a même des élus.
Mais bien sûr, on va y venir. Mais donc, bien évidemment, quand vous voyez des personnes qui vont cesser de se quereller pour des sujets stériles, à savoir voilà, ces querelles partisanes qui, oui, aujourd'hui sont omniprésentes dans la société, oui, quand vous voyez des centaines de personnes qui vont se réunir, et alors que vous avez des personnes de gauche, de droite, peu importe, des gens qui sont croyants, non-croyants, etc., ces personnes viennent se rassembler sans être dans simplement l'invective, dans la critique, dans la division permanente. Et bien évidemment que ça ne fait pas forcément le beurre de certains chantres de partis politiques qui, eux, voient possiblement bien un électorat qu'ils ne contrôleraient plus, etc. Et donc, on a, alors c'est marrant, vous le verrez sur Twitter, on a sur X, nous, oui, avons diffusé une nouvelle vidéo aujourd'hui dans le cadre de notre série Révélation sur Murmure de la Cité. Donc,
alors,
vous la regarderez.
On a la primeur Radio Courtoisie.
Vous la regarderez. Donc, tout est parti du député communiste de l'Allier,
voilà.
Je vais le nommer, Yannick Monet. Voilà, Yannick Monet,
Yannick
député
Monet,
communiste.
Donc, chef du service publicité de Murmure de la
Exactement,
Cité.
C'est notre impresario en chef. Et donc ce monsieur, qui, alors, il me semblait, hein, jusqu'à présent, je pensais que les députés étaient censés faire rayonner leur territoire et être les ambassadeurs niveau de l'Assemblée nationale, eh bien, de leur territoire, de leur population. Bon, alors là, il faut se rendre compte que là, il a montré que, a priori, c'était pas forcément son job, puisque il s'est mis à taper à bâton rompu sur Murmure de la Cité, sur les personnes qui
dans la presse,
alors sur les personnes qui font partie de l'association, et à chercher à diviser, c'est-à-dire en mettant des étiquettes sur les uns sur les autres, et à rappeler aux personnes membres de Murmure de la Cité qu'il y a des divisions et que pourquoi quitter des bonnes divisions partisanes qu'on connaît au quotidien pour voilà, quelque chose qui est beau. Ça serait quand même regrettable. En tout cas, ça ferait pas le beurre du communiste en chef Yannick Monet. Et donc, effectivement, il a commencé à sortir ce petit dossier en conseil municipal, conseil communautaire, parce que ce député est également élu local, oui, à la ville de Moulins et à Moulins Communauté. Il a sorti son beurre, alors nous en parlions tout à l'heure un peu en off avant l'émission, sur des sujets,
aparté, oui,
ouais, sur des sujets mais absolument ridicules, c'est-à-dire que d'un côté il va s'attaquer au financement, mais comme en fait n'importe quelle personne dans une dynamique partisane va attaquer les financements de l'opposition. Ça, oui, c'est toujours c'est la même chose. On le voit dans toutes les affaires aujourd'hui au sujet de la politique. Voilà. Et également s'attaquer aux personnes. Donc, c'est-à-dire que qu'a découvert Yannick Monet sur le compte de Murmur la Cité, eh bien, c'est que le président de Murmur la Cité, moi-même, est également président de Sofiapolis, cette association que vous connaissez depuis plusieurs années, qui accueille des jeunes et moins jeunes pour venir réfléchir au réel.
Et même, des prêtres, il y a au moins un ou deux prêtres.
Bien sûr. Et donc, il s'est dit, bien voilà, Guillaume Sonnet, il a de tort, et d'ailleurs, il a missionné ensuite ces journalistes militants, parce que vous savez, pour arriver en tant que député communiste, derrière, il y a une carrière de militantisme qui permet d'avoir un bon réseau quand même. C'est ça, c'est le but du
surtout
militantisme.
Dans la presse. Et je comprends pas en fait presque que alors parlons-en, La Montagne, qui est le journal local, qui a été quand même assez national. C'est un journal issu de la résistance. C'est un journal qui n'a pas eu moins que d'autres de la presse régionale de marque politique et qui se prête aux manipulations du député communiste. Moi, je ne savais pas que La Montagne était communiste. Honte à La Montagne communiste.
Ah ben, nous sommes bien d'accord. D'ailleurs, nous n'avons pas manqué
c'est un bon quotidien, d'ailleurs.
Nous n'avons pas manqué de leur dire que honte à eux. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons... Ils ont tapé énormément, eux aussi, sur Murmur de la Cité en nous prêtant des choses absolument abjectes. C'est-à-dire que là, j'avais préparé ces petites notes. Ils disent dans leur colonne que Murmur de la Cité travaille à la réhabilitation du nazisme, que nous flirtons avec les...
En disant vraiment ce mot-là.
Ah, attendez,
je
vais vous lire. Oui, mais c'est ça, effectivement, c'est très intéressant.
Et donc, évoquer l'histoire s'approprie, enfin, et mélanger avec un délire nazi, c'est quand même invraisemblable.
Ah oui, non, mais nous sommes...
La Montagne est diffusée dans mon département, la Corrèze, et je l'achète de temps en temps, mais depuis votre histoire, je crois que je vais finir de l'acheter.
La Montagne, titre le 17 juillet, donc quelques jours après notre spectacle, des croix gammées projetées sur le CNCS, Centre National du Costume de Scène, des drapeaux qui ne passent pas. Ils poursuivent, alors là, bon, je cite, hein, la projection de 5 oriflammes, donc avec croix gammée, est abjecte et provocatrice, sous prétexte de dénoncer cette projection de signes nazis.
Mais où
sème la confusion.
Ils sont pas dans votre spectacle.
Si, alors, j'y viens, mais je vous lis. Je vous lis.
Alors, je dois dire que je ne l'ai pas vu, ouais, le spectacle. Je connais Sofiapolis, mais pas le spectacle.
Cette projection de signes nazis sème la confusion dans l'esprit des spectateurs et envoie des messages subliminaux. Et enfin, il continue, ce spectacle flirte avec la réhabilitation des pires heures de notre histoire et diffuse une idéologie contraire aux droits humains et aux valeurs de la République. Donc ça, ce sont les propos de La Montagne sur le 17 juillet. C'est-à-dire que nous, je le disais tout à l'heure, le but du jeu était de permettre aux Auvergnats, aux Bourbonnais surtout, oui, de se réapproprier leur histoire. Donc oui, nous avons une grande fresque historique, c'est 2000 ans d'histoire.
Et oui. Nous et partons, notamment, il y a la Seconde Guerre mondiale.
Nous partons de Vercingétorix, qui lui a bouté l'envahisseur romain, en tout cas qui les a battus à Gergovie, donc en Auvergne.
Encore
et nous allons, voilà, et nous allons jusqu'à effectivement la libération. La libération, il faut savoir que Moulins était sur la ligne de démarcation, qu'une partie de la ville était occupée, l'autre non,
oui,
et donc cette ville a été libérée. Comme de nombreux bâtiments publics hein, durant cette période, eh bien, ce bâtiment, comme d'autres, ont pu être drapés de ces oriflammes avec des croix gammées. Eh bien, dans une dynamique en fait, tout simplement déjà de spectacle, mais également de témoignages de ce qu'il s'est passé. Effectivement, durant la scène de l'occupation, on voit des soldats allemands qui défilent dans les rues et qui font des contrôles, papiers, etc. Nous avons effectivement cette immersion avec ces croix gammées. Alors d'ailleurs, croix gammées, c'est marrant parce qu'il faut savoir que la ville de Moulins, dans le cadre d'illumination qu'ils organisent depuis plusieurs années, fait la même chose sur ces bâtiments. Mais alors quand c'est la ville de Moulins, ça va parce que Monet et compagnie sont élus à la ville et à Moulins communauté. En revanche, quand c'est des gâteaux à chef scout et ce que vous voulez, eh bien là, c'est sûr, c'est forcément de l'apologie du nazisme. Bref, passons. La scène, il y a une scène d'occupation, et aussitôt après, elle est suivie de combats de la libération, où on voit des Français, où on voit des GI, vous ne les aimez pas, mais des GI américains qui débarquent avec des véhicules, etc. Les Allemands sont boutés hors de la scène à la fin du spectacle, et nous avons une guinguette à la française, nous avons des drapeaux tricolores qui submergent littéralement la scène. Et donc, d'ailleurs, qui est le premier journaliste qui a répondu cette rumeur que nous faisions cette réhabilitation, eh bien, il s'agit de Thomas Lemayeux. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Voilà,
c'est
ce même journaliste qui
peut-être
attaque...
Peut-être Corentin, oui, non ?
Oui, c'est un journaliste de l'Humanité.
Oui, complètement. Ah, ouais.
Voilà.
Donc, lui est venu alors, donner des conférences en Auvergne pour venir alerter contre le danger murmure de la cité en Auvergne. Et donc ce journaliste a sorti son article le lendemain de la première du spectacle. Donc, c'était la première était le 11 juillet, le 12 juillet, l'Humanité titre murmure de la cité, le spectacle a eu lieu et c'est encore pire que prévu. Et alors là, c'est, enfin, donc, il part dans ses délires complètement fous. Vous irez voir également, de toute façon, dans les vidéos que nous sortons sur, oui. Sur X et sur les réseaux sociaux.
Il faut inviter nos auditeurs et téléspectateurs, puisque nous sommes filmés, à regarder votre site, parce que c'est très instructif sur le degré du délire.
Ah oui, complètement. On est parti dans du fantasme.
Alors, il n'y a pas que les communistes, en plus.
Non, alors,
partie des socialistes.
C'était très large.
Il y a eu une manifestation aussi.
En fait, ça a réuni. En fait, il y a eu un front anti-murmure. D'ailleurs, il me semble que c'est comme ça qu'ils se sont appelés. Alors, pas front, ça ils n'oseraient pas. Mais par contre, voilà, c'est une coalition anti-murmure.
Le premier Front National était un parti communiste bis en 1945.
Et donc, effectivement, nous avons des syndicats au sein des écoles, des syndicats comme la CGT. Nous avons les partis, alors, partis politiques. On a les LFI, la députée LFI de Clermont-Ferrand s'est rendue à Moulins ce fameux 11 juillet pour manifester face au CNCS contre Murmure de la Cité. Nous avons effectivement le Parti communiste, le Parti socialiste. Donc voilà, et puis d'autres sous-partis de la gauche qui sont également joints à cette grande kermesse. Donc effectivement, ils étaient très nombreux, ils ont mobilisé du monde. Mais la réalité, quelle est-elle ? C'est qu'on a quand même appris, et ça c'est quand même beau, on a appris qu'il y a eu quand même pas mal de personnes qui se sont désabonnées de la presse, de ces presses militantes, notamment on parlait tout à l'heure de La Montagne. Et d'ailleurs, ce micro qui m'est tendu me permet de renouveler en fait cet appel. Mais chers amis, chers Bourbonnais, chers Auvergnats, vous avez été témoins de cette campagne de diffamation et d'injures contre un projet qui fédère, qui fait rayonner notre territoire. Et qui
évoque
du bien.
Son histoire. Qui fait du bien. Renoue avec une histoire qui fait plaisir sans doute à un grand nombre d'habitants du Bourbonnais de connaître leur propre histoire.
Et on a des médias partisans, des journalistes partisans également, qui, contre toute évidence, parce qu'on cherchait à expliquer, contre toute évidence, le sens du spectacle. Alors que, bien évidemment, ces journalistes l'ont vu. D'ailleurs, vous savez, on nous reproche depuis le début d'être antidémocrates, antirépublicains, ce que vous voulez. Nous avons accepté toutes ces personnes-là, tous ces journalistes, dans notre spectacle. On leur a permis de filmer, on leur a donné une accréditation.
Tout sauf la démocratie.
Mais complètement. Et alors, eux, ils nous ont refusé, dès le lendemain du spectacle, tous nos droits de réponse. Sur les injures qu'ils ont sorties. Alors,
vous avez rencontré la haute direction de La Montagne, non ?
Alors, nous, on leur a envoyé un huissier pour prendre acte de leur refus.
Rencontre, ah, oui.
Alors, non, nous, on leur a envoyé un huissier quelques jours après pour effectivement prendre acte de leur refus d'insertion de droit de réponse. Aujourd'hui, bien évidemment, on a porté plainte, hein, et puis on a plusieurs procédures qui sont en cours. Une fois de plus, chers auditeurs, et puis Paul-Marie, voilà, abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Là, vous trouverez en fait ces éléments sur le compte Guillaume Sonnet. Vous aurez effectivement tout ce qui se passe en coulisses du spectacle avec ces éléments polémiques.
Oui, oui. Attirons l'attention et notamment renvoyons à vos sites parce que la partie n'est pas gagnée. Vous avez eu des polémiques, Corentin Pas à ce niveau-là, quand même. On n'a pas manifesté devant le...
Non, pas pour l'instant, mais je suis assez sidéré quand même de tout ce que vous racontez. J'avais suivi à distance un petit peu ces polémiques. Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'il y a une mauvaise foi terrible.
C'est ça.
Je vais vous raconter une anecdote sur la Dame de Pierre. Il y a un média qui, récemment, avait interviewé une spectatrice... C'était une journaliste engagée politiquement qui a interviewé son amie à la sortie du spectacle qui était allée voir la Dame
D'accord.
de Pierre. Ça a été évidemment le seul spectateur représentatif qu'elle a trouvé. Et cette spectatrice qui sortait d'une salle de 5000 personnes qui s'était levée comme un seul homme à la fin du spectacle...
Ah oui, parce que l'enthousiasme général à dire que tout le monde se lève, et beaucoup de gens pleurent...
Vous l'avez vu, parce que contrairement, contrairement aux journalistes, vous êtes venu nous voir. Cette spectatrice disait « Ah mais moi j'ai été très choquée parce que après l'incendie de Notre-Dame, plutôt que de remercier les pompiers, à ce moment-là, on voit juste une très grande statue de Marie. En fait, vous avez, après l'incendie, où on raconte ce qui s'est passé avec les pompiers, vous avez les portes qui s'ouvrent, et là, vous avez la Pietà de Notre-Dame, et cette image qui a sidéré le monde entier,
oui,
des portes de la cathédrale qui s'ouvrent, avec la Pietà au fond de la cathédrale, et au pied de cette Pietà, ce tas de charpentes écroulées, etc. Donc, en fait, vous avez une mauvaise foi terrible de certains journalistes qui, par principe, veulent nous détruire. Par principe, veulent détruire les spectacles de personnes qui aiment la France, qui aiment leur histoire, qui ont envie de partager quelque chose avec, avec leur public. Donc, alors, finalement, peu importe ce que vous faites, peu importe ce qu'il y a vraiment dans le spectacle, vous serez attaqué. Donc, nous, on a décidé de les ignorer, de continuer notre tournée. Et le juge de paix, c'est le public. Et le public est là, le public est enthousiaste.
Ça, le succès est immense.
C'est alors, la seule chose qui compte.
En tournée en province, alors on peut regarder sur votre site, vous aussi, vos programmations. Pas de polémique, mais c'est moi qui vais en créer une, figurez-vous. Parce que, comme d'habitude, je demande à mes invités de venir avec un morceau de musique. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que vous m'avez envoyé l'un et l'autre. Alors, Corentin m'a envoyé Corentin Stemmler, un extrait de la musique de scène, illustrant, je veux dire, je suis très heureux que vous lui rendiez hommage, Claudel, qui est attaché à Notre-Dame, parce que c'est derrière son pilier qu'il s'est converti vraiment. Il était faussement catholique, ou à moitié, il est devenu fervent. Du jour au lendemain, un dimanche soir, il était très jeune. C'est pas le pilier qui a compté d'ailleurs, c'est la musique, c'est les cœurs d'enfants qui l'ont touché. Faut bien savoir
que
c'est la musique qui l'a touché. Voilà. Et alors, on va écouter la musique que vous m'avez envoyée. Je ne sais pas quel est l'auteur, je le sais, on peut le dire d'ailleurs.
Richard Liégeois, le compositeur des musiques de la Dame de Pierre.
Qui a composé l'ensemble de la scène.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors voilà, une musique de Richard Liégeois, qui a composé la musique de votre spectacle, qui dure 1h30, cher Corentin, Madame de Pierre. Et on va écouter maintenant la musique qu'a choisie Guillaume Sonnet, celle de Murmure de la Cité, et vous allez pouvoir comparer les deux musiques. bien, alors, chers auditeurs, peut-être que quelque chose vous frappe, c'est que ces deux musiques sont exactes, enfin, sont à peu près du même type. Bon. C'est d'ailleurs le type de la musique du Puy du Fou. Il se trouve que j'ai eu quelques divergences avec Philippe de Villiers dans ma longue vie, mais la plus violente a porté sur la musique dont il était très fier. Il a dégoté un musicien américain pour la musique du Puy du Fou, dans la version la plus récente. Enfin, récente, je crois que la scène se passe en 2005, quelque chose comme ça. Moi, je trouve que cette musique, alors je le dis avec, je le dis très sincèrement, bon, c'est de la musique pas désagréable à entendre, encore qu'elle soit un peu forte, hein, à mon avis, je ne suis pas le seul à le penser dans La Dame de Pierre, mais enfin, c'est charmant, ça plane un peu, c'est quand même un peu de l'ordre de la musiquette. Bon, je ne dis pas qu'il faille de la grande musique, encore que ça existe. Vous savez, il y a une très belle scène avec Maurice de Sully, qui est celui qui reconstruit la cathédrale. Il y a mille choses à dire sur l'ancienne cathédrale de Paris, laquelle a été construite. En plus, c'est intéressant sur les notes, c'est-à-dire un lieu celte.
Un lieu chargé d'histoire.
Chargé d'histoire. Là, cette fois, c'est multimillénaire. Bon, à quoi a fait référence d'ailleurs ? Vous n'en parlez pas. Je me suis demandé si vous en parlerez. A fait référence.
Au pilier des notes et tout ce qu'il y avait avant. On ne peut pas parler malheureusement de tout.
On ne peut pas parler de tout. Mais Dominique Vénère y a fait référence dans la lettre qu'il a laissée après s'être suicidé s'être tué devant l'hôtel Notre-Dame. Vous n'avez pas gardé cet épisode. Je le comprends. Cela étant. Revenons à la musique, bien qu'il était très significatif, ce lieu choisi par Dominique Vénère. Au fond, on peut dire que pendant très longtemps, le lieu symbolique de Paris a été la Tour Eiffel, et finalement, le lieu symbolique de Paris va devenir pour la terre entière Notre-Dame. C'est déjà une grande victoire. Bon, je reviens à la musique. Maurice de Sully, qui a reconstruit Notre-Dame, tout au moins qui a lancé une reconstruction qui a duré, je crois, près de deux siècles. C'est une scène au cours de laquelle on s'attendrait à entendre du chant grégorien, par exemple. Je ne sais pas s'il y en a. Il y en a par-ci, par-là, mais assez peu. Il y a des musiques pour illustrer d'autres scènes au XVIe, au XVIIIe. La musique baroque française que vous pouvez utiliser, je pense. Non, on ne peut pas prendre des musiques déjà existantes pour illustrer des spectacles comme ça, je ne sais pas. Je trouve que ça aurait plus de force que cette musique qui est d'inspiration très outre-Atlantique, qui n'est pas une mauvaise musique, mais qui a quelque chose de très décalé. Alors, c'est fait comme pour la publicité, pour soulever l'enthousiasme, soulever les cœurs. Je ne dis pas que votre musicien, Guillaume Senet, Grégoire, Laume, soit un mauvais musicien, ni que Richard Liégeois, pour La Dame de Pierre, soit un mauvais musicien. Il est d'ailleurs major de promotion à l'école de Nancy, qui s'appelle d'ailleurs, bien entendu par hasard, la Music Academy International de Nancy. Voilà, je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais c'est pas pourquoi c'est américain, Nancy, on n'en sait rien, mais tout ça baigne dans... Il y a une aliénation culturelle par la musique, c'est ce que je veux vous dire. Alors continuez avec vos musiciens, mais est-ce qu'ils peuvent avoir une inspiration un peu plus national à ce sujet. J'ai pas eu le temps de vous le demander, Corentin. Une musique de rattrapage pour se laver un peu les oreilles, avec un morceau qu'a choisi.
C'est un peu outrancier, Paul-Marie, mais c'est pas grave. Vous viendrez voir Murmure de la Cité. Et puis
alors, Guillaume Senet a choisi une autre musique qui va nous permettre de nous distraire les oreilles.
Thank you.
Bon, alors c'est une toute autre musique. les premières minutes, parce que cette composition est longue, du Roi danse de Lully. Alors, nous étions en train de nous dire qu'il y a des droits de la SACEM, en réalité, pour quand on prend des musiques
des œuvres musicales
déjà sur le marché. Mais enfin, vous payez des droits SACEM à votre compositeur quand même.
Mais pour nous, c'est pas une question de droits. C'est qu'on n'est pas dans la reconstitution historique. On fait un spectacle et on doit respecter certains codes qui souvent sont propres à leur époque. Parce que si vous faites quelque chose qui est trop éloigné de ce que le public a l'habitude de voir, eh bien vous sortez trop du cadre pour réussir à toucher le grand public.
Je comprends, oui.
C'est toujours une ligne de crête, hein, il ne s'agit pas de faire uniquement ce que les gens aiment. Moi, par exemple, pour ma part, je suis un grand passionné de musique sacrée, de musique baroque, notamment de musique renaissance. Et effectivement, il y a plein de scènes dans La Dame de Pierre où j'aurais pu mettre du chant grégorien, comme vous disiez, ou d'autres musiques, mais dans la manière à laquelle je vois le spectacle de manière générale, artistiquement, c'est pas ce que je souhaite présenter sur des grandes scènes comme ça. Pour des questions de rythme, pour des questions de durée des scènes, pour des questions de cohérence aussi musicale avec un thème. En fait, ce qu'on fait, ça ressemble beaucoup à de la musique de film, si vous voulez. Et que si demain, vous avez un compositeur qui fait un film sur Napoléon, il va pas mettre que des musiques des grognards de Napoléon qui chantaient en allant au combat. Il va y avoir de la musique qui va accentuer la tension, qui va apporter de l'émotion, qui va donner du rythme. On se situe vraiment là-dedans. Mais un spectacle comme La Dame de Pierre, c'est pas un concert. On a quelques passages chantés dans le spectacle.
Des
passages chantés en direct avec des voix solistes, etc. On en a quelques-uns dans le spectacle. Et ensuite, vous avez la musique qui accompagne les scènes, mais c'est un soutien, en fait. Ce n'est pas un concert où on présente une composition musicale.
Je ne dis pas que ce soit désagréable à entendre. Bien. On est soulevé par la musique, c'est bien sa fonction dans ce cadre-là. Accompagne quelque chose que l'on voit, d'abord. Mais je trouve que l'inspiration pourrait être un peu diversifiée, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de musique unique, il y a la pensée unique, il y a la monnaie unique, et puis il y a la musique unique, vous venez de le dire d'ailleurs. Il faut aller à la rencontre de ce qu'ont l'habitude de voir, et surtout d'entendre les spectateurs. Alors, tournons cette page musicale, hélas, il ne nous reste plus beaucoup de temps, il me faudrait beaucoup plus de temps, comme je le dis fréquemment. Vos perspectives, mon cher Corentin, après ce succès, vous allez lancer d'autres pièces ou d'abord d'autres représentations à Paris et en province?
Alors déjà effectivement, Dame de Pierre continue sa tournée. On sera la semaine prochaine à Montpellier, Aix-en-Provence, la semaine suivante à Lille, en décembre à Bordeaux. Et puis en 2026...
Alors vous trouvez des salles chaque fois assez grandes parce que
Les Zéniths ou les Arénas.
Il faut des salles immenses.
Bien sûr.
Quelquefois, il y a sur scène plusieurs centaines de... Peut-être pas plusieurs centaines, mais enfin d'acteurs entre les...
Eh bien, c'est parce que la mise en scène est bien faite, ça vous donne cette impression. On est maximum une quarantaine sur scène,
mais
ça fait déjà
du monde. On a l'impression d'une vaste foule sur la scène.
Et vous avez
félicité
surtout, en fait,
le metteur en scène de ma part.
je lui transmets.
Vous êtes l'auteur et le metteur en scène.
Tout à fait.
Vous avez toute une équipe autour de vous, une partie de votre famille d'ailleurs, dont votre frère Hugues-Marie, ici présent. Beaucoup de gens vous aident. C'est très familial, c'est très agréable ça. Mais bref, vous le faites si bien qu'on a l'impression de quelque chose d'énorme.
Mais c'est quand même un gros spectacle avec un décor qui fait 20 mètres de large sur 10 mètres de haut. Donc on doit jouer dans les zéniths, les arénas ou les grandes salles. Mmh. Et en 2026, c'est la première fois que je l'annonce sur un média parce que c'est officiel depuis quelques heures. Nous serons du 3 au 7 juin 2026 au Palais des Sports à Paris. On jouait jusqu'à maintenant au Palais des Congrès de Paris.
Oui.
On sera cette fois-ci au Palais des Sports Dôme de Paris. Porte de Versailles.
C'est encore plus grand, non ?
C'est à peu près la même taille, mais c'est une autre salle mythique à Paris. Et puis ensuite, on poursuit la tournée des Zéniths en 2026 avec 25 Zéniths entre septembre et octobre. Et toutes les billetteries sont ouvertes sur notre site ladamedepierre.fr.
Alors l'histoire continue dans tous les sens, c'est-à-dire l'histoire de France continue parce qu'elle a retrouvé par vous son fil. Un fil continu.
L'histoire continue. L'histoire nous a précédé et l'histoire nous survivra et nous, on doit simplement la passer aux générations suivantes.
Vous faites la classe à la France, vous savez, ce que l'éducation nationale ne fait plus, vous réinstruisez.
Et je pense que ce qui est le plus important, en fait, c'est d'aimer, c'est d'aimer l'histoire. Vous disiez au début de cette émission que vous pensiez que depuis 40 ans, on n'apprenait plus l'histoire. Moi, dans mon parcours, j'ai eu des cours d'histoire plus ou moins intéressants, mais j'ai notamment eu deux professeurs qui m'ont fait aimer l'histoire. Et une fois qu'ils vous ont allumé cette flamme dans votre cœur, une fois que vous avez compris, eh bien, non seulement ça ne s'éteint plus, mais vous trouvez les livres, les ressources, les personnes pour vous former.
Guillaume Senet, vous avez la même passion de l'histoire, vous.
Ah, la même passion pour l'histoire. Mais si
c'est peut-être ce qui nous sauvera, la passion pour l'histoire. Réapproprier l'histoire, c'est la mère des combats.
Probablement, mais c'est vrai que voilà, pour nous, les objectifs à Murmure, si je peux conclure là-dessus, ça serait de pouvoir refaire ce spectacle au Centre National du Costume de Scène. Ça en aura besoin du soutien de tout le monde, et puis de toutes les personnes, toutes les bonnes volontés qui nous écoutent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait gagné, parce que vous l'avez compris, la première saison c'était à jouer grâce à beaucoup de combats.
Oui.
Là, il va falloir en mener à nouveau. Nous les menons.
Une grande bataille qui s'annonce, et tous les auditeurs de Radio Courtoisie sont priés d'avoir l'œil.
Et puis surtout, là, nous, aujourd'hui, les frais que nous avons à payer, c'est surtout des frais d'avocat, vous l'avez compris. Quand on injure en disant qu'un spectacle qui réunit, qui transmet l'histoire de France, fait la réhabilitation du nazisme et diffamé de la sorte, eh bien, on doit se défendre. Donc on a plusieurs procédures en cours et on a vraiment besoin de vous, chers auditeurs.
Alors rendez-vous sur le site Murmure de la Cité et rendez-vous prochainement, mon cher Guillaume, parce que je vais vous suivre à la trace, fût-ce par téléphone, pour que vous nous donniez des nouvelles.
Vous venez d'entendre les répliques du nouveau conservateur dirigé par Paul-Marie Couteau, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 5 novembre 2025, de 16h à 17h. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.